d'amitié qui se sont créées. Et c'est bon de voir que Dieu est fidèle. Et malgré les épreuves qu'on a traversées, on a vu la fidélité de Dieu. Hein? Et je crois que c'est vraiment formidable. Ça. Alors, c'est une grande joie de pouvoir porter la parole de Dieu. Et voilà, le thème de ce matin, c'est « Entendre et écouter Dieu me parler ». Grand thème, n'est-ce pas? En réalité, c'est la troisième prédication, c'est une série de prédications. J'ai commencé il y a 3 mois sur ce thème, dans une église, et ça c'est la troisième. Mais n'ayez pas peur, je ne vais pas vous enseigner les deux premières avant, parce que sinon on en a pour 3h30 de l'après-midi. Alors je vais me concentrer, je l'ai fait pour aujourd'hui, et c'est en même temps pour l'autre église une continuité. Mais entendre, écouter Dieu me parler est très important dans la vie. Parce que au final, si on pose la question aux chrétiens, combien entendent-ils Dieu parler? C'est un grand thème, n'est-ce pas? Entendre, écouter Dieu me parler, c'est important dans la vie de tous les jours. Quand j'apprends à reconnaître la voix de Dieu, cela va m'aider dans mon existence et dans ma vie en tant que chrétien. Et je crois que c'est tellement important. Bien sûr, nous savons que le Seigneur nous parle par sa parole. C'est la chose essentielle. La parole de Dieu, Dieu nous parle par la parole. Dieu nous parle par la parole prêchée aussi, puisque Dieu appelle des serviteurs de Dieu pour transmettre sa pensée au travers d'une prédication. Bien sûr, par les dons spirituels ou par l'intermédiaire d'un frère ou d'une sœur qui reçoit une pensée, qui donne et après qu'on a réfléchi, on dit oui, j'avais prié dans ce sens-là et la réponse, la voilà. Parfois, ça peut être tout simple. Ce n'est pas nécessaire de toujours compliquer. Souvent, nous sommes rationnels. Et on complique bien, mais parfois on prie et la réponse elle vient et on se dit, mais Seigneur, j'ai pas la réponse. Mais si on est attentif, le Seigneur nous a déjà répondu. Nous devons donc comprendre qu'il y a un apprentissage à écouter la voix de Dieu. Rappelez-vous, les paroles et le vécu de Samuel, le prophète, au début, dans sa jeunesse, il était à l'écoute de la voix du prophète Élie. Mais par la suite, le Seigneur va l'interpeller. Mais il ne reconnaît pas encore la voix de Dieu. Mais à 3 reprises, Dieu va l'appeler et après il va reconnaître la voix de Dieu. Et ça va être le départ d'une relation nouvelle avec Dieu, où Dieu va l'employer pour son ministère et pour sa vie aussi. C'est dans une relation personnelle avec le Seigneur que va se développer l'écoute et le fait de reconnaître la voix de Dieu. C'est dans une relation personnelle. C'est un désir profond de mon être d'entendre Dieu me parler. Je veux que Dieu me parle. Je suis son enfant et je veux qu'il me parle. J'ai des enfants et vous savez, enfin vous avez des enfants aussi pour la plupart, je pense, mais quand vous êtes avec vos enfants, dans le salon ou à la salle à manger, je ne vois pas comment ça peut se passer s'il ne parle pas. La relation parent-enfant, elle est là. Il faut communiquer. On aime quand nos enfants nous posent des questions. Et on aime leur répondre. Bon, vous avez compris, hein. C'est pas toujours facile, j'en suis conscient. Mais il y a des bons moments avec nos enfants. Bon, il y a des moments à table, par exemple. Comme on dit chez nous, ça peut être sec parce qu'on n'est pas d'accord des confrontations. Mais il y a des moments, c'est tellement riche. Même dans les confrontations, parce que on est secoué. Hein. Moi, j'ai 3 générations presque dans mes enfants. J'ai eu des enfants au début de mon mariage, après 10 ans plus tard, et après 8 ans, donc j'ai des décalages. Donc j'ai plusieurs générations, enfin pas des générations, des décennies de différents. Donc ils voient déjà les choses différemment. Le temps. Les événements ont changé terriblement, la société a changé, J'ai passé par beaucoup d'épreuves, donc il n'a pas fallu que je me reconcentre et m'adapter à cette nouvelle façon de penser, etc. Toujours est-il que Dieu aime communiquer avec ses enfants. Et le désir de Dieu, c'est de communiquer avec toi ce matin, ou à partir de ce jour, bien que peut-être que tu l'as déjà fait avec le Seigneur. Le désir de Dieu, c'est de communiquer. Et je pense que tout vrai disciple a le désir de communiquer avec Dieu. Si vous êtes disciple du Seigneur, enfant de Dieu, et que vous n'avez pas le désir de communiquer avec Dieu, il y a une grande lacune dans votre vie. Une incompréhension. C'est que vous ne connaissez pas votre Dieu. Alors, ce matin, je vais aborder trois points pour confirmer la pensée que j'ai ce matin. Même s'il y a d'autres points, comme je l'ai dit, hein, j'ai fait deux études auparavant, mais je vais aborder que trois points. L'obéissance, l'humilité et la sainteté. Nous verrons à la fin que ces trois points ont un point commun. L'obéissance. Je vais vous parler d'Abraham. Nous connaissons sa vie, ses combats, ses prises de position, son esprit d'intercession. Vous vous rappelez quand il est question de Sodome, que Dieu veut détruire Sodome, il prie, il crie Seigneur, il dit Seigneur, je voudrais que tu sauves cette ville. Ne fais pas ton jugement sur cette ville, mais s'il y a 100 justes, Seigneur, tu ne vas pas détruire cette ville quand même. Et s'il y en a 50, s'il y en a 20, s'il y en a 10, donc on voit son désir, il connaît Dieu et il veut communiquer avec Dieu. Ce que nous savons d'Abraham, c'est que c'est un homme qui s'attend à ce que Dieu lui parle et lui réponde. Comment je le sais ? Parce que la Bible le dit. Dans Genèse 18:1, vous allez voir normalement sur le PowerPoint, mais l'Éternel lui dit, lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Abraham, dans tous les pays très chauds, pendant la chaleur du jour, on fait la sieste. Et Abraham avait le droit, comme tous les autres, de faire la sieste. Et il était dans une phase, entre guillemets, de repos, mais il était attentif. Il ne faisait pas la sieste comme peut-être la plupart, où on aime dormir et se relaxer, mais il était attentif. Et l'Éternel lui apparut dans cette période-là. Vous voyez, il y a le désir d'Abraham de toujours être attentif pour que Dieu lui parle. Après, nous avons, dans le verset, dans la Genèse, au chapitre 27, nous avons « Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de Dieu. » Nous voyons que Abraham a un culte personnel chaque matin. Attitude favorable pour entendre et écouter Dieu lui parler. Je mets une parenthèse, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde de le faire, de se lever chaque matin pour prier. Il y a des périodes qu'on peut le faire, il y a des périodes que c'est plus difficile dans la vie. Mais toujours est-il que c'est une attitude qui est appréciée de Dieu. Dans Ésaïe 50, verset 4, il est écrit ceci, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin et il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Même dans l'Ancien Testament, c'est une des seules fois, je crois, que le mot est employé de disciple. Vous êtes des disciples de Christ. Amen. Et ici, dans l'Ancien Testament, déjà, comme écoutent les disciples. Donc, vous voyez, il y a déjà cette notion d'être à l'écoute. Nous devons être à l'écoute de la voix de Dieu. Il s'attend à ce que Dieu lui parle. Et c'est important. Parce que après, le Seigneur va interpeller Abraham et le mettre à l'épreuve. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais l'histoire nous dit que dans la Genèse 22, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et lui répondit, me voici, Dieu dit, prends ton fils unique, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, qui fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Heureusement que nous savons que ça finit bien. J'aime bien d'entendre la voix de Dieu. Mais il y a des choses que j'aime pas d'entendre. Mais toujours est-il qu'ici, dans ce cas-ci, allez, nous connaissons l'histoire et nous savons que ça finit bien. Je ne vais pas vous parler de l'épreuve de la foi, je ne suis pas là pour ça ce matin. Abraham est connu de Dieu et il sait que c'est un homme fidèle et juste. Cependant, le Seigneur désire le prouver. La demande de Dieu à Abraham de sacrifier son fils unique, il me semble que ça dépasse mon imagination. N'oublions pas qu'Abraham a dû attendre 100 ans pour avoir ce fils. La seule chose que nous savons, c'est que lorsque Dieu fait une demande à son disciple, à son enfant, Dieu ne se trompe jamais. Frères et sœurs, il y a des moments dans la vie, je vais vous en parler dans quelques instants, mais il y a des moments dans la vie où vous devez placer votre confiance en Dieu. Quand Dieu demande quelque chose, Dieu ne se trompe jamais. Dans Jérémie 17, 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Que Dieu fait, ce que Dieu fait avec Abraham, il va scruter son cœur. Scruter quelqu'un pour voir ce qu'il pense, pour voir ce qu'il ressent réellement. Dieu le connaît. Il le connaît même personnellement. Il le connaît comme un ami. Dans Jacques 2, 3, il est écrit, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Agrippa traverse l'épreuve de l'incompréhension dans sa chair. Là, écoutez bien ce que je dis. Malgré qu'il traverse l'épreuve de l'incompréhension dans sa chair, il reste attentif à la voix de Dieu. Il entend et reconnaît la voix de l'ange de l'Éternel. L'histoire d'Abraham est une grande leçon pour chacun de nous ce matin. Il reste dépendant de Dieu à 100%. Même dans cette situation que je pourrais dire incompréhensible, où sa chair est meurtrie, il reste attentif à 100% à l'écoute de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, c'est parfois difficile, hein, de tenir le cap à 100% dans l'épreuve, lorsqu'on est éprouvé dans la chair, la perte d'un être cher. Un papa, une maman trop tôt parti, un enfant trop tôt parti. Lorsqu'on vit l'indifférence, le rejet de l'autre, la souffrance physique et psychique, ce sont toujours des moments particulièrement difficiles. C'est notre chair qui est meurtrie. Et dans ces moments-là, c'est dur. C'est pas facile. Marc 14, 38, Jésus conseille à ses disciples. Or que lui-même est éprouvé dans sa chair, à Gethsémané, il est éprouvé au maximum dans sa chair. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le désir de Dieu, c'est que si nous restons branchés, pour prendre les termes, ou connectés, pour prendre les termes modernes, il faut qu'on ait dit tantôt, vous adapter, mais si vous restez connectés avec Dieu, même si vous êtes éprouvé dans votre chair, eh bien, vous restez attentif à la voix de Dieu. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que l'épreuve de la chair d'Abraham est très difficile, mais nous allons retirer une leçon. La leçon d'Abraham, c'est qu'il est resté attentif, comme je l'ai dit, pour entendre, écouter Dieu lui parler. Heureusement, car il aurait pu ne pas entendre la voix de Dieu au moment où il a levé la main et le couteau pour tuer l'enfant. Vous comprenez, il est dans l'épreuve. Certainement que le domaine émotionnel était au maximum. Il était dans l'incompréhension. Mais il entend la voix de Dieu sur la diacète. Je ne vais pas lire tous les versets, mais l'ange lui dit, n'avance pas la main. Supposons qu'il aurait commencé à faire comme nous sommes habitués nous-mêmes. Je parle de moi, mais peut-être vous, je n'en sais rien. Mais moi, je sais bien que quand je suis éprouvé dans ma chair, quand il y a des événements, que ce n'est pas facile de rester 100% branché sur le Seigneur. Mais lui, il est resté attentif. Et au moment où il prend le couteau pour faire l'acte que Dieu lui a demandé, le Seigneur lui dit, n'avance pas ta main. Vous comprenez ce que je veux dire? Le fait que l'épreuve, il l'a vécu, mais il est resté attentif à la voix de son Dieu. Le fait qu'il est resté attentif à la voix de Dieu, c'est ce qui a permis de sauver l'enfant. Vous savez, mon épouse, hein, quand j'ai fait le collège public, j'ai eu l'appel du Seigneur, j'ai fait collège public, 3 ans, etc. Bref, quand je suis arrivé sur la terre sainte de Malone, Loulou s'en souviendra, hein, il nous avait même apporté un petit chien, là. Bon, bref, trois mois et demi après, mon épouse, à peu près 4 mois, mon épouse tombe malade. C'était très grave. Bon, au début, ça avait l'air anodin, température, bronchite, pneumonie. Après, 42 fièvres tout d'une fois, hospitalisation, abcès pulmonaire, etc., etc. Apurésie, purulente. Et il n'y avait plus rien qui marchait. Donc, les médecins m'ont dit, vous savez, parce qu'une fois, j'arrive donc à la clinique, elle n'était plus dans la chambre, on dit elle est morte. Et il l'avait mis dans une chambre particulière, pour que je recommençais seulement à travailler, et je n'avais pas d'argent. J'ai dit, écoutez, moi, je ne peux pas assurer les frais d'une chambre particulière. Elle m'a dit, écoutez, la clinique prend en charge. Mais il y a peu de chances qu'elle s'en sorte. Par la grâce de Dieu, l'Église a prié en son temps, et avec d'autres, d'autres Églises ont prié. Avec la grâce de Dieu, elle s'est relevée, et merci Seigneur. 6 mois après, de nouveau, une pneumonie très très grave. Et là, je dis, elle va rester dedans. Et on avait eu une caravane à prêter, et on était descendu dans le sud pour se reposer. Pendant 4 mois, elle n'a pas pu sortir, donc jusqu'au mois de mai. Et après, au mois de juillet, on est parti. On était dans un camping sauvage, mais c'était le seul arbre. Et cette année-là, la personne n'était pas là. Donc, la caravane était sous un arbre, heureusement. Mais enfin, bref, et là, le médecin venait 3 fois par jour. Mais c'était une situation tellement difficile. Je ne comprenais plus rien. Le Seigneur qui m'appelle au collège. Je suis ici sur une terre inconnue, parce que moi, je suis du centre de la Louvière, etc., etc. Alors, en bon wallon, j'ai bu 2-3 tasses de bon café, et comme j'étais dans le sud de la France, j'ai dit, je vais aller dans la montagne. On a toujours l'impression que quand on monte sur la montagne, qu'on est plus près de Dieu. Hein, c'est une notion, je ne sais pas pourquoi. Alors, je monte un petit peu sur la montagne, mais j'étais déjà en prière, hein. Je voulais la réponse de Dieu. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Audiblement. Je te l'ai donné, j'ai le droit de la répondre, de la reprendre. Ouf. Vous savez, quand Dieu parle, hein, savoir écouter. Hein. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis retourné me coucher. J'ai compris que Dieu est souverain, qu'il fait ce qu'il veut et qu'il nous donne la force de marcher jour après jour. Et par la grâce de Dieu, il est toujours là. Enfin, toujours, c'est péjoratif. Elle est encore là. Et elle a été une grande bénédiction pour la famille, mais surtout pour mon ministère. Gloire à Dieu. Entendre. Et je voudrais entendre la voix de Dieu plus souvent de cette manière. Mais... Alors, le deuxième point, c'est l'humilité. Je prends des passages connus pour ne pas m'étendre trop, mais l'humilité. Rappelez lors de la dédicace du temple de Salomon. 2 Chroniques 7:4. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours les yeux et mon cœur. Salomon fait la dédicace du temple de l'Éternel avec le peuple. Et c'est la réjouissance, beaucoup de joie, bien sûr, après tant d'années d'efforts, de consécration financière, etc., etc. Si ce moment est important, la réponse, et Salomon a fait tout un exposé à la grandeur de l'Éternel, extraordinaire, mais la réponse de Dieu est tout autant. Et la réponse est le verset que nous venons de lire, « Si mon peuple s'humilie ». Alors, on est tellement habitué à ce verset, on connaît ce verset certainement par cœur, qu'on oublie que dans ce verset, il y a 4 phases. Si mon peuple s'humilie, 1, et me prie, 2, cherche la face de Dieu. Chercher, ça veut dire qu'il y a une action continue. Quand on se met à chercher, donc c'est qu'il y a une action continue. C'est pas seulement un moment comme ça. C'est pas s'humilier, prier, chercher, non. Et quatrièmement, se détourner ses mauvaises voies. C'est pas seulement un moment dans le temps, mais c'est un moment qui est là. Je cherche la face de Dieu, donc c'est une période de temps. S'humilier réellement devant le Seigneur est une attitude difficile pour un chrétien. Je parle de l'humiliation devant le Seigneur. S'humilier, je le définis comme se mettre à nu devant le Seigneur des Seigneurs. Pour entendre, écouter la voix de Dieu, ce sera le prix à payer, frères et sœurs. Voilà, je prie devant la face du Seigneur et conscient d'être dans sa présence, dans ce moment où mon cœur s'ouvre avec un tel désir, ma prière devient une intercession. Plus je cherche sa présence, chercher. Action continue. Plus je cherche sa présence, plus je m'approche du trône de Dieu qui est saint. Quelque chose se passe dans ma vie. Dans sa présence et dans cette attitude d'humilité, il me permet de me voir tel que je suis. Je ne sais plus rien cacher à Dieu. Frères et sœurs, quelle démarche. Je parle ici du disciple qui veut être vrai avec Dieu, qui veut être vrai avec lui-même. Pas seulement avoir une étiquette, mais de vivre réellement avec Dieu. Quand je suis vrai avec Dieu, je ne sais plus rien cacher. Quand je suis dans sa présence et que je veux d'un côté entendre sa voix, je sais qu'au fond de moi, je ne peux plus rien cacher. Parenthèse, à ce moment-là, ou bien je reste dans sa présence, ou bien je fuis. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent plus prier aujourd'hui. Parce que quand ils abordent la présence de Dieu, ils ont peut-être trop de choses qui sont difficiles à avouer à Dieu. Je ferme la parenthèse. Devant Dieu, je suis vrai, je veux sa bénédiction, je dois passer par le chemin du curage, de l'épuration de mon esprit et de mon cœur. Moi, j'ai travaillé dans l'épuration, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, la Bible est tout aussi claire. Malachie 3:3, il s'installera pour éliminer les déchets et enlever les impuretés, comme on raffine de l'or et de l'argent. Il purifie totalement les descendants de Lévi. Ceux-ci présenteront alors leur offrande au Seigneur conformément aux règles. Le Seigneur accueillera favorablement les offrandes des gens de Juda et de Jérusalem comme auparavant, dans les années du passé. Alléluia. Voilà comment le Seigneur nous voit aussi. Quand je viens dans sa présence, il veut purifier mon cœur, mon esprit. D'abord, dans ce moment d'intimité avec Dieu, je réalise les jeux des pensées que j'ai véhiculées, les bonnes peut-être, probablement, et les mauvaises pensées. Mais jusqu'où ont été mes mauvaises pensées, mes mauvaises attitudes? Jusqu'où ont-elles été pour que je puisse ne plus ressentir même la présence de Dieu, que je ne puisse plus entendre la voix de Dieu? Puis je suis devant Dieu et que je m'humilie. Je lui dis tout. Tout ce que je ressens, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être la honte, mais de l'autre côté, la délivrance, la joie d'un Dieu qui pardonne et qui restaure. Ensuite, la deuxième étape, c'est le ressenti des pensées, celles qui concernent ma vie spirituelle, personnelle ou celle du ministère. Là aussi, je lui dis tout. Je dis tout à mon Seigneur. Je veux rien lui cacher. Loin de faire de l'introspection, je suis dans la prière, dans l'intercession devant Dieu. Je laisse le Seigneur agir et révéler à mon esprit ce qui se passe. Je dis dans cet esprit de prière, de supplication, je reconnais les blessures dont j'étais atteint, peut-être par des frères et sœurs, par des situations d'église, mais que ces blessures ont changé parfois ma façon d'être, ma façon de gérer mon ministère, les mauvais choix que j'ai faits, qui me culpabilise devant le Seigneur et qui affecte ma relation avec Dieu et les celles des frères et sœurs. Le chemin de l'humiliation n'est pas facile, mais c'est aussi le chemin de la bénédiction de l'Éternel, qui va restaurer progressivement ma vie. Une fois passé par ce chemin, nous allons être plus sensible, entendre et écouter Dieu nous parler. Parce que nous avons accompli ce que le cœur de Dieu désire. Si mon peuple s'humilie et me cherche. On ne peut pas s'humilier sur deux secondes comme ça. Comprenez ce que je veux dire? Parfois on dit, oh, le chrétien dit, oui, il faut s'humilier devant le Seigneur, n'est-ce pas? Mais c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. L'évangile, la relation avec Dieu, vous savez, ce Dieu est extraordinaire, le Dieu de l'univers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce Dieu qui il gère tout le monde, le cosmos. Et quand je vais m'humilier devant le Seigneur, bon Seigneur, je te fais une prière d'humiliation. Un peu comme si on boit sa tasse de café avec un petit gâteau. Mais non, il faut être beaucoup plus, excusez-moi l'expression, mais il faut être beaucoup plus sérieux que ça. Les choses de Dieu, on ne les aborde pas d'une manière superficielle. Si je proclame être un enfant de Dieu, un disciple de Dieu, j'ai le respect pour mon Dieu. Et quand je veux venir dans sa présence, réellement, je vais savoir que j'ai intérêt à mettre ma vie en ordre avec lui. Non pas parce que je redoute le jugement, mais parce que ce que Dieu attend de moi, par amour, c'est que ma relation avec lui soit super et qu'il n'y ait pas d'obstacle. Je vous parle parce que personnellement, de cette manière-là, parce que peut-être que vous et moi, nous avons passé par des chemins comme ça, des périodes comme ça, des périodes particulières. Peut-être que c'est ce que je suis en train de vous exprimer, c'est peut-être d'une certaine manière ce que je vis peut-être dans le moment présent, depuis des mois en tout cas, depuis, je ne sais pas moi, 6 mois. J'ai passé plusieurs chemins d'humiliation personnelle devant Dieu dans ma chambre, à prier, à intercéder. Comme j'ai dit, être vrai avec le Seigneur. Je ne voulais plus rien cacher. Bien que ce n'était pas mon intention, mais j'avais besoin de faire un curage. Vous savez pourquoi on doit faire des curages? Dans les égouttages, les égouts, tout ça. J'en ai fait sur le bois de Villers, quand je travaillais à l'épuration. Il y a des tuyaux de collecteurs qui reprend tous les déchets des égouts, de vos toilettes, cuisine et tout. Mais parfois, je me souviens ici, en descendant en profonde ville, il y avait un arc, une racine d'arc qui était passée dans le collecteur, dans le tuyau, hein, et qui obstruait. Donc il y avait des saletés qui remontaient. Et parfois, dans certains endroits, ça remonte dans les caves des gens. Hein, ça. Alors, le curage, c'est ça. C'est de nettoyer des déchets pour que la grâce de Dieu, l'amour, la sainteté de Dieu transpire, véhicule en nous. Donc je reviens à ce que je disais, je suis à ça, et alors j'ai étudié, j'ai relu un livre sur être à l'école de Dieu, et je suis dans cette phase-là, parce que dans notre vie, c'est des moments importants de reprendre conscience que on ne doit pas subir la vie, mais qu'on peut réagir par rapport à la vie. Il y avait la maladie au mois de juillet, on m'a remis un stent. Et j'ai eu des problèmes. Après, j'ai eu des revalidations, on m'a pété un muscle. Bon, je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Même une attaque de l'ennemi. Et je voudrais juste dire, j'étais là devant Dieu, je priais, j'ai dit, Seigneur, je veux que ma vie te serve encore. Je suis encore jeune. Oui, je crois que je suis encore jeune. Aurait jeune dans son esprit, mais j'ai un objectif pour 4-5 ans, et je dis, Seigneur, je peux encore te donner ça pour le service, etc. Et alors j'avais été à une pastorale avec Pascal, et plus on parlait des problèmes des églises, tout ça, et tout d'une fois j'ai attrapé une douleur qui était effrayante. On a dû me descendre, la pastorale avait lieu en état. On a dû me descendre, et je souffrais. Heureusement que j'étais avec Pascal, parce que j'aurais jamais su revenir. Et bon, j'ai pris des dafalgans, on a prié pour moi. Le lundi, ça a recommencé. Je vais abréger, mais le lundi, ça a recommencé. J'avais téléphoné au docteur, mais il n'est pas venu, parce qu'il n'a pas compris, ou il n'avait pas envie de venir. Toujours est-il que ça m'a permis de changer de docteur, entre parenthèses, mais bon, après des dafalgans, des anti-inflammatoires et tout, le jeudi, de nouveau, une crise dans mon dos qui était épouvantable depuis le matin. J'ai appelé un autre médecin qui est venu, il est très bien d'ailleurs, bon, enfin bref, il m'a fait un piqûre. Mais la douleur était tellement intense, je savais. Même respirer était trop fort. J'étais contre le mur. Je suis resté de 4 heures l'après-midi contre le mur jusqu'à 7 heures du soir, presque. Et le médecin m'avait fait une piqûre, m'a dit dans 20 minutes ça va aller mieux. Mais 2 heures après, j'étais encore là. Alors j'avais une possibilité, c'était, je disais, maintenant, il y a 2 possibilités. C'était appliquer un principe biblique ou bien faire appel à l'ambulance. Je ne pouvais plus tenir, ça faisait 4 heures que j'étais contre le mur, dans un état de faiblesse. Et je dis, la parole de Dieu nous dit que quand tu es malade, appelle les anciens de l'église et prieront avec l'huile. Et alors, j'ai téléphoné à Frère Pascal et j'ai dit, écoute, j'ai besoin qu'on vienne prier tout de suite avec l'onction d'huile. Il est venu, il a prié, il a fait l'onction d'huile. Alors, il s'est passé 2 choses. Il a prié pour le mal. Et quand je l'ai dit, dans l'épreuve, parfois, on reste avec un esprit très lucide, si on reste bien branché sur le Seigneur. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit avec Abraham? Il est resté connecté, hein. Mais ici, j'avais un esprit très lucide, très très lucide. Et après, après il avait terminé de prier, je dis, Pascal, je pense que derrière cela, il y a une attaque de l'ennemi. Alors, Pascal a reprié que si c'était une attaque de l'ennemi, qu'elle devait cesser tout de suite. Et alors, mon dos s'est endormi et j'ai pu m'asseoir. Réellement, j'étais m'asseoir. Après, quand Pascal est parti, je me suis assis dans le fauteuil. J'ai pu même m'asseoir sur le lit, j'ai pu me coucher et dormir ma nuit. Et jusqu'au dimanche, donc du jeudi au dimanche, j'avais mon dos, la douleur est endormie. Et elle a diminué progressivement. Et à chaque fois que je ressens un petit peu la douleur, je dis, Seigneur, on a fait l'onction d'huile pour le mal, pour s'il y avait une maladie. Et là, par contre, la douleur, enfin la déchirure musculaire que j'avais, je n'ai plus ressenti. Que j'ai fait une analyse par la suite. J'ai plus ressenti de douleur musculaire et la douleur au dos, j'ai parfois encore un peu, mais à chaque fois je prie, je dis, Seigneur, je ne veux pas me laisser influencer par l'ennemi. Quand vous êtes dans ce chemin où vous voulez vraiment vous approcher du trône de la grâce, ce que je veux dire, c'est que l'ennemi n'est pas content. Je n'avais pas compris tout de suite. Mais après, plus je m'approchais de Dieu, et plus je voulais sanctifier ma vie, c'est jusqu'à quelle heure, je m'excuse. Hein. Je vais essayer de faire vite. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous voulez sanctifier votre vie, il y a des moments où l'ennemi veut vraiment vous saper et vous arrêter dans votre cheminement. L'ennemi, il n'aime pas que vous vous sanctifiez. Parce qu'il est méchant, il est un bandit, l'ennemi. Là, Jésus l'a dit dans Jean 10. Il est méchant, il est cruel, il veut vous détruire. Alors que moi, je voulais me sanctifier, c'était déjà pas mal. Et après, je sens qu'il y avait une nouvelle étape qui devait... je m'étais humilié devant le Seigneur et je sens qu'il y avait une nouvelle étape. J'étais pris là, je ne savais plus quoi, mais j'ai compris. L'ennemi était en train d'essayer de m'arrêter sur ma route. Alors, je vais passer au point. Donc, la sanctification. La sanctification, c'est, bien sûr, ça touche au cœur même, le cœur même. Dans le psaume 54, 3, 8, pardon, en français courant, il est dit... De bon cœur, je veux t'offrir un sacrifice. Je veux prononcer ton nom dans mes louanges, Seigneur, car tu es bon. Alléluia. Et Jésus a aussi dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, pensées de meurtre, adultère, d'impudicité, etc., etc. Bon, vous voyez que c'est du cœur. Donc la sanctification, elle touche le cœur proprement dit de la personne. Pour entendre la voix de Dieu, il faut un cœur saint. Il faut que nous puissions être purifiés dans notre existence, notre vie. Et il y a plusieurs personnages qui ont fait, dans la Bible, qui ont fait des expériences extraordinaires. Je continue avec des passages qu'on connaît très bien, ça me permet d'aller un peu plus vite dans le texte. Mais nous avons l'histoire de Moïse. Nous savons que Moïse a résidé 40 ans dans le désert. Et à un certain moment, Dieu va se révéler à lui. Hein, et... Nous allons passer directement au verset 5. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ah, là, Moïse va faire une nouvelle découverte, une nouvelle rencontre déterminante pour sa vie. Nous savons que Moïse avait à cœur, dès son jeune âge, il a eu à cœur de prendre position pour... son peuple. Il a vu que son peuple était maltraité. Et les responsables égyptiens avaient beaucoup d'hostilité par rapport au peuple. Et il a voulu prendre la défense. Et ça a tourné mal ce jour-là. Alors, dans la bagarre pour défendre, il a tué un Égyptien. Alors, il a dû partir et il a été chassé. Pendant 40 ans, il a tourné dans le désert. Et Dieu a commencé à le façonner. Il voyait le peuple hébreu pour qui il ressentait quelque chose, mais il ne connaissait pas le vrai Dieu des Hébreux. Et il a fallu qu'il apprenne à connaître le Dieu des Hébreux. ce Dieu de toute éternité. Le rendez-vous que Dieu souhaite avoir avec Moïse a pour but de transformer sa vie une fois pour toutes. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, que nous réalisons qu'il est saint et que je m'humilie, je subis une transformation totale dans ma vie. Et quelle est la transformation qui va se passer ici? Moïse va changer de mentalité. Il n'aura plus... À partir de ce moment-là, Moïse ne sera plus jamais le même. Et il va aborder le reste de sa vie d'une autre façon. Le changement de mentalité. Et on pourrait dire, change-moi Seigneur. Pas comme je veux, mais comme toi tu veux Seigneur. Ce changement se réalise lorsque nous vivons, et je le répète, mais dans la présence de Dieu, lorsque tu te mets à genoux dans ta chambre et que tu intercèdes devant Dieu, tu dis, Seigneur, je veux que mon cœur se nettoie. Et que jour après jour, dans la présence de Dieu, tu es saint, Seigneur. Et je sais, je ne peux plus rien te cacher, mais je veux cette bénédiction. Je veux que tu me touches, Seigneur. Frères et sœurs, le prophète Ésaïe a fait cette même expérience. Et c'est ce qui a changé sa vie et sa vocation. Dans Ésaïe chapitre 6, nous lisons ceci. Ça, c'est important de le dire. Ils crièrent l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Vous le croyez? Vous croyez que la terre est remplie de la gloire de Dieu malgré le péché qui règne sur la terre? Quand pour nous, les enfants de Dieu, ici, tout est saint. N'êtes pas sûr. N'êtes pas sûr? Si nous proclamons que Dieu est au milieu de nous, Dieu ne peut pas résider dans un lieu où le péché abonde. Et lorsque Ésaïe réalise qu'il est devant la sainteté de Dieu, il crie au secours, au secours, au secours. Mes yeux ont vu Dieu. Mes yeux ont vu Dieu. Je vais mourir. Parce que la sainteté de Dieu, elle a pour effet soit de nous bénir et de nous porter plus loin, ou bien de nous mettre au pied du mur, de reconnaître qu'il est saint et de vivre pour lui, ou bien de partir. Il n'y a pas d'équivalent dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de tolérance pour le péché. Le monde tolère le péché. Mais la grâce de Dieu surpasse toute chose. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alléluia. Et le prophète, celui qui deviendra un merveilleux prophète, aura une vie transformée. Frères et sœurs, Dieu est saint. Et quand tu te tiens devant Dieu, rappelle-toi, tu n'es pas devant n'importe qui. Tu n'es pas devant un Dieu fait de bois par les mains des hommes. Mais tu es devant un Dieu qui est trois fois saint. Et je me plie devant lui. Et là, quand je cherche la bénédiction de Dieu, je m'attends à ce qu'il purifie tout mon être. Je veux être différent. Je ne veux plus être comme auparavant. Je veux que ma vie soit bénie. Je veux que ma vie soit transformée pour la gloire de Dieu. Au début, je vous ai dit qu'il y a un point commun dans les trois points, obéissance, humilité et sainteté. Quel est ce point commun? Un cœur transformé, un esprit saint et un corps saint par la présence de Dieu dans ma vie. Pour entendre, écouter Dieu, te parler, c'est des chemins qu'il faut parcourir. Frères et sœurs, je suis à la conclusion maintenant. Frères et sœurs, pour entendre et écouter Dieu me parler, nous devons développer une démarche honnête devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans notre apprentissage, il y a un temps, ça ne se fait pas en un coup de baguette magique, c'est un apprentissage. On vient dans la présence de Dieu. Et vous savez, c'est pas toujours facile. On est là. Et il m'est arrivé de venir dans la présence de Dieu. Avec des bons sentiments, je commence à prier tout d'une fois, mon cerveau, c'est le disque dur. C'est le moment, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à tout, sauf à prier. Et alors je dois dire, Seigneur, mais il faut que ça se calme là-dedans. Moi, je suis venu pour te rencontrer. Et parfois, je dois lutter, je dois recommencer à prier. Je dis, Seigneur, mets le calme dans mon esprit. J'ai toujours remarqué que pour tous les chrétiens, c'est le même. Quand on veut vraiment rencontrer Dieu, il vient plein d'idées dans notre tête. C'est pas vrai? Mais persévérez. Le Seigneur est avec vous. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Et la promesse que Dieu a faite, si le peuple s'humilie, je t'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ton péché et je guérirai ton pays. Autrement dit, il va restaurer ta vie et tu pourras vivre dans l'intimité avec ton Dieu et ton Sauveur. Amen. Que Dieu bénisse vos vies, me bénisse aussi. On va juste terminer par la prière. On va juste chanter un chant. Hein. Je m'excuse si j'étais un peu plus long. On va prier, je voudrais qu'on prie, et on va après chanter ce chant, mais je voudrais prier avec vous, hein. On va se lever un instant si vous...